portrait de femme de notre matrimoine. C'est le 29e portrait et c'est donc toujours présenté et préparé et animé par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, au début du XXe siècle. Nous parlons d'une pionnière du photojournalisme de guerre, Gerda Taro. Gerda, G-E-R-D-A, plus loin Taro, T-A-R-O. Elle est née Gerta, avec un T, Pohoryl, P-O-H-O-R-Y-2-L-E, le 1er août 1910 à Stuttgart, en Allemagne, de parents commerçants juifs immigrés de Galicie, alors sous domination polonaise. Elle a fait ses études à Stuttgart et en Suisse, dans la villa Florimont. Ainsi, elle est trilingue, elle parle allemand, français et anglais. Très tôt impliquée dans les mouvements révolutionnaires, elle est un temps emprisonnée pour activités communistes. Elle portait en elle un idéal partagé par beaucoup de jeunes de son époque, la lutte collective contre le fascisme, la dictature, pour la liberté et un monde meilleur. Fuyant l'Allemagne hitlérienne et les persécutions antisémites, elle arrive à Paris fin 1933 avec son amie Ruth Serf. Elle survit grâce à des travaux de secrétariat. À ses moments libres, elle retrouve dans les cafés ouverts tard le soir, dans une belle atmosphère, les groupes d'exilés révolutionnaires, plusieurs membres du Parti socialiste allemand, dont Willy Brandt, un des futurs chanceliers d'Allemagne après la guerre de 1939-1945. Lors d'une séance photo où pose son amie, elle fait la connaissance d'un autre exilé politique, un Hongrois expulsé de son pays, André Friedman, le nom francisé de André Erne Friedman, Friedman, F-R-I-E-D-M-A-2-N. Il a un vrai pouvoir de séduction et sait en jouer. Ils deviennent amants et partenaires. Il lui apprend la photographie et la fait embaucher par l'agence Alliance Photo. Unis par leur engagement contre le fascisme et leur passion commune pour la photo, ils vivent et travaillent ensemble pendant 4 ans. Elle légende les clichés d'André afin d'en assurer la vente. Elle est ambitieuse, beaucoup plus organisée que lui dans son approche. Ayant étudié l'art et la politique en Allemagne, elle a une solide formation qu'il n'a pas, avec un sens de la composition plus évolué. Ses photos sont plus structurées, fruit de ses études du constructivisme russe. Lui, dont les études ont été perturbées, est davantage dans l'émotion. Mais, tels quels, ils se complètent, se nourrissent l'un de l'autre. Elle reçoit sa première carte de presse le 4 février 1936. C'est elle qui a l'idée stratégique d'attribuer les photos du modeste Hongrois à un mystérieux reporter nommé Robert Capa. Capa, C-A-P-A. C'est ainsi qu'à son initiative, André Friedman devient Robert Capa et Gerda Pohoryl devient Gerda Taro. Des noms d'usage faciles à prononcer et à retenir pour le public. En août 1936, ils partent pour l'Espagne couvrir pour les revues Vue et Regard, en tant que reporters photographes, les combats de la guerre civile aux côtés des républicains du gouvernement républicain espagnol, luttant contre l'insurrection militaire et nationaliste dirigée par le général Franco. Cette guerre fratricide qui fera 600 000 victimes et qui est considérée comme le prélude à la Seconde Guerre mondiale, Franco ayant reçu, pour l'emporter, l'aide massive de l'Allemagne hitlérienne et de l'Italie fasciste. En France, malgré la politique officielle de non-intervention dans cette guerre, Jean Moulin, alors chef de cabinet de Pierre Cotte, ministre de l'Air dans le gouvernement du Front populaire de Léon Blum, met en place clandestinement une aide aux républicains espagnols, leur envoyant avions et pilotes. De façon prémonitoire, Jean Moulin déclare, je cite, « Si les pays démocratiques ne portent pas immédiatement secours aux républicains espagnols, ils seront écrasés. Le fascisme franquiste s'installera tra los montes, par-delà les montagnes, ce qui est advenu. » Gerda et Robert sont aussi auprès des brigades internationales. Les brigades internationales sont des volontaires venus de plus de 50 pays du monde apporter leur soutien aux républicains. en vain. Sur le terrain, ils inventent tous les deux une nouvelle manière de photographier la guerre, témoigner, non de l'exploit, non de la magnificence, de la gloire des héros, mais de la détresse humaine, celle des soldats comme celle du peuple, avec des clichés hallucinants et terribles des heures sanglantes de l'Espagne d'alors. L'appareil photo qu'utilisait Gerda permet de saisir sur le vif et au plus près les faits et gestes des combattants, à condition d'être capable d'accompagner les soldats sur les champs de bataille, au péril de sa vie, ce que fait Gerda, convaincue de se battre pour un monde meilleur. En tant que femme, en aucun cas elle ne photographiait de préférence des enfants et des femmes. Elle privilégiait les scènes de combat tout autant que son compagnon, Robert Capa, un homme. Les soldats républicains l'appelaient « Pequeñita Rubia », la petite blonde, à cause de son visage mutin, toujours souriant, casqué de courts cheveux blonds, élégamment vêtue, flamboyante. Elle n'avait pas peur de la mort. Dans la fougue de sa jeunesse, elle se croyait indestructible. Le 27 juillet 1937, lors de combats violents vers Madrid, elle est écrasée par un char républicain heurtant la voiture sur le marchepied de laquelle elle s'était juchée pour prendre des clichés. Elle meurt de ses blessures le lendemain. Son corps est ramené en France par Paul Nizan, un écrivain intellectuel français, et inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris, devant plusieurs milliers de personnes. Son éloge funèbre est prononcé par deux poètes célèbres, Pablo Neruda et Louis Aragon. Sa tombe est sculptée par Alberto Giacometti à la demande d'Aragon, une tombe qui sera profanée par les nazis en 1942. Le journal communiste Ce Soir, dirigé par Aragon, pour lequel elle et Robert Capa travaillaient, lui rend un vibrant hommage dans son édition du 28 juillet 1937. Je cite « Gerda Taro était notre collaboratrice de la première heure. Elle était la jeunesse et la gaieté de notre journal. On l'aimait et on respectait en elle à la fois le talent et la bravoure. Depuis les débuts de la guerre d'Espagne, elle avait fait plusieurs reportages sur le front, toujours présente aux endroits les plus périlleux, en Andalousie, à Madrid, à Bilbao, toujours là où se déroulait une attaque. Elle demeurera le symbole et l'honneur du journalisme. Les reportages de Gerda Taro et de Robert Capa se confondent. Ils sont au mieux signés Capa et Taro et souvent simplement Photo Capa, effaçant le travail de Gerda Taro au seul profit de son compagnon qui y gagne une célébrité mondiale alors qu'elle reste dans l'ombre. C'est seulement au printemps 1937 que Gerda, s'apercevant que Robert Capa s'approprie la plupart de ses œuvres, décide de le quitter pour couvrir le bombardement de Valence et vendre son travail sous son seul nom. Cette confusion des identités profita donc exclusivement à Robert Capa, ajoutant à la disparition de la mémoire de Gerda, tombée dans l'oubli pendant des décennies, personne n'a pu veiller sur ses archives. Sa famille ayant disparu lors de la Shoah, cette entreprise d'élimination totale des Juifs. Alors que le frère de Robert Capa, Cornel, a, lui, géré les affaires de son frère et fait vivre sa mémoire pour la postérité. Cependant, le Centre international de photographie new-yorkais, fondé en 1974 par ce frère de Robert Capa, proposa en 2007 la première exposition consacrée à Gerda Taro, comme pour réparer, très très tardivement, une injustice, la faire sortir de l'ombre où elle a été engloutie. L'année suivante, en 2008, on découvrit une valise portée disparue depuis 1939, soupçonnée depuis 1995 d'être à Mexico, une valise qui contenait, parmi plus d'un millier de négatifs, pas moins de 800 clichés signés Gerda Taro. Robert Capa vécut encore 20 années après la mort de Gerda. Exilé aux États-Unis d'Amérique dès 1939, il couvrit 5 guerres, dont la Seconde Guerre mondiale, la guerre sino-japonaise, la guerre israélo-arabe de 1948 et la guerre d'Indochine, où il trouva la mort en 1954, à 41 ans, en sautant sur une mine antipersonnelle alors qu'il suivait les soldats français. En conclusion, nous dirons que Gerda Taro a connu le même sort que d'autres femmes exceptionnelles de notre matrimoine. Être connue ou reconnue par les historiens, non pour leur talent, mais à travers des hommes qu'elles ont fréquentés, amants, maris ou autres, et qui, eux, ont bénéficié de la reconnaissance publique et sont restés célèbres. De Gerda, jusqu'à une date récente, l'histoire a davantage retenu sa disparition tragique et son parcours amoureux que son talent. L'histoire l'a toujours associée en quelques lignes, ou au plus en quelques pages, à l'homme dont elle a un court temps partagé la vie. Voici ce que dit d'elle François Maspero dans l'ouvrage qu'il lui a consacré en 2006 sous le titre « L'ombre d'une photographe, Gerda Taro ». Je cite « Elle a subi le plus cruel destin que puissent connaître les ombres, celui de ne même pas être sa propre ombre, mais celle d'un autre, morte et pire encore peut-être, lentement, disparue ensuite au fil du temps, happée par cette nuit de mémoire dont il y a 3000 ans déjà, Homère disait d'elle qu'elle est plus terrible que la mort. » Des hommages lui sont rendus. Dans le 14e arrondissement de Paris, une plaque commémorative de sa mémoire ainsi que de celle de Robert Capa et de leur ami David Seymour au 37 rue Froidevaux. En 2019, donc très tardivement, la mairie du 13e arrondissement a présenté une exposition en sa mémoire et a nommé une nouvelle voie Gerda Taro. Il y a une place à Stuttgart, une allée à Villeurbanne, une rue à Madrid et une école à Leipzig. En 2022, son travail est présenté dans le cadre de l'exposition « Femmes photographes de guerre » au Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin à Paris. Voilà les sources.
Bien sûr.
Alors, ma source principale, c'est le travail de recherche d'une amie en 2018, un travail qui m'a été aimablement prêté, ce dont je la remercie. Et puis, des extraits du livre de François Maspero précité, édition Point Seuil. Et puis, pour aller plus loin, on peut lire la biographie que lui a consacrée Imre Chaber, Chaber, S-C-H-A-B-E-R, pour réhabiliter enfin le travail de Gerda Taro. Et puis, on peut lire aussi un livre qui vient de paraître, Jean Moulin, le héros oublié, de Fabrice Grenard, édition Plomb, 2023, 272 pages.
Merci beaucoup Jacqueline pour ce nouveau portrait Gerda Taro. C'était le 29e, donc plus qu'une séance pour la 30e portrait. Ce sera donc mardi prochain sur notre antenne.
À mardi prochain pour le 30e et dernier portrait de cette seconde série.
Merci. Au revoir, bonne journée.